Bonjour, je ne pouvais pas, à la suite de cette écoute donc de la chanson issue du film Capitaine d'Avril, qui est un film en rappel et en l'honneur de la Révolution portugaise du mois d'avril 1975, ne pas évoquer ces 50 années écoulées depuis ce coup d'État non sanglant qui a mis au pouvoir donc une démocratie dans un pays qui était dans une dictature depuis des décennies. Et je ne voulais pas aussi faire le commentaire, oublier le commentaire que font aujourd'hui un certain nombre de militants de gauche au Portugal en disant « ça fait 50 ans qu'on a fait la révolution » et en fait c'est exactement aujourd'hui le nombre de députés d'extrême droite qu'il y a dans le Parlement portugais. Donc est-ce qu'on n'aurait pas un peu perdu notre temps? Non, alors c'est pas ça, ils ne sont pas majoritaires, mais effectivement il y a aujourd'hui 50 députés d'extrême droite dans le Parlement de Lisbonne. Et ça ne donne pas une bonne idée de ce qu'a été cette révolution portugaise, mais ça montre qu'il y a quand même des nostalgiques de cette période-là, puisqu'on a affaire à un coup d'État donc non violent organisé par des militaires, des jeunes militaires qui ont fait leurs armes et surtout qui ont voulu arrêter de sacrifier des vies africaines dans les colonies portugaises et qui ont donc donné le signal, même si ça a été très très long, parce que donner en 1975 le signal de l'abandon par le Portugal de ses colonies africaines, c'était le faire. Alors, il faut regarder la carte, mais qu'est-ce qu'il y avait juste à côté de l'Angola en particulier et du Mozambique? Il y avait l'Afrique du Sud de l'apartheid et il y avait la Rhodésie des Blancs de Jan Smuts, c'est-à-dire les deux régimes de l'apartheid les plus féroces qu'il y a eu sur le continent africain. Et donc, effectivement, la décolonisation des colonisations portugaises a été lancée par le mouvement des capitaines en 1975, mais elle n'a pas abouti tout de suite, puisqu'il a fallu en fait qu'il y ait une intervention qu'on connaît assez peu, mais de l'armée cubaine sur le sol angolais, pour, j'allais dire, casser la figure à l'armée sud-africaine. Et ça a été ça le vrai tournant. Donc il a fallu presque 20 ans pour que la décolonisation amorcée en 1975 arrive à ses objectifs et à ses fins. Et donc entre-temps, l'apartheid était tombé, etc. Ça, c'est un rappel qui n'est pas inutile. Mais venons-en à une actualité beaucoup plus fraîche qui se passe à différents endroits. Alors, j'hésitais sur l'endroit. Je vais commencer par nous promener à Rome où il y a eu un spectacle bouffon. J'appelle ça comme ça, qui a été largement médiatisé. Alors le spectacle bouffon, pour ce que vous en avez vu, ben, je le rappelle, on est dans la basilique Saint-Pierre de Rome, au moment où vont commencer, quelques minutes avant le début de la cérémonie funèbre en l'honneur du décès du pape François, et dans une espèce d'espace totalement vide. Donc pas vide complètement, puisqu'en fait il y a sûrement des centaines de caméras de télévision et d'appareils photo. Mais le spectacle qui nous est présenté donc à l'occasion de ces funérailles, c'est un spectacle assez étonnant de deux personnages noyés dans cette immensité de cette salle du Vatican, assis sur deux chaises, se faisant face à face et discutant. Alors vous avez peut-être tous vu ça, mais c'est assez rare dans la façon de présenter la politique. Donc deux personnages qui sont là. Donc l'image va dans le monde entier, dans le quart d'heure, parce que c'est tellement étonnant et tellement incompréhensible. On se dit, qu'est-ce qui se passe pour que M. Trump et M. Zelensky s'assoient là, faisant peu de cas, d'ailleurs on ne sait pas pourquoi ils sont venus aux funérailles, peut-être c'était pour se rencontrer ou pour faire être dans la photo de famille des invités officiels, mais ils ont parlé. Alors après, à partir de ça, l'opinion mondiale, la totalité des journalistes du monde, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Alors, il faut réduire la chose à sa réalité, c'est-à-dire que la séquence d'échange entre M. Trump et M. Zelensky parle un anglais approximatif, mais pas très très développé, parce qu'on a eu l'occasion de l'entendre ici et là, ils ont parlé en tout 15 minutes. C'est pas en 15 minutes qu'entre deux chefs d'État, on règle un conflit de l'intensité, de l'ampleur et des conséquences du conflit ukrainien. Donc, c'était une bonne partie, une opération médiatique à laquelle Trump s'est prêté, que Zelensky voulait, et Zelensky la voulait pas tout seul, puisqu'il s'agissait... Alors, il y a d'autres séquences, d'autres images qui arrivent après, mais qui ont été volées ici et là sur d'autres sites. On s'est aperçu qu'à un moment donné, il y a eu deux autres chaises. Et où sont-elles passées? Alors, c'était un montage qui était destiné à faire apparaître sur l'image à diffusion mondiale M. Emmanuel Macron et M. Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Parce que l'idée venait d'eux. C'est eux qui avaient dit à Zelensky, tu viens et puis tu vas exiger de Trump qui se rallie à nos positions. Alors nos positions, je les rappelle pour les citoyens de la République française, ça consiste à aller... Alors, je pense que c'est des positions verbales qui ne résisteront pas à une analyse froide de la situation militaire. Ça consiste à aller casser la figure à l'armée russe. Bon. Alors, bon, laissons-les dire ou laissons-les rêver, mais c'était ça qu'ils voulaient mettre en scène. Alors, ça n'a pas marché, puisque Trump a dit, apparemment, on a vu après aussi des images de Trump disant à Macron, en coulisses avant, « Toi, tu restes à ta place hein, », parce qu'il le considère, comme, à juste titre, comme un employé. Il faut bien que nous soyons conscients, même si ça peut nous faire de la peine à notre aspect souverain, notre orgueil national, il a dit fais ce que je t'ai dit de faire et c'est tout, et reste à ta place, qui est une petite place effectivement, comparée aux États-Unis. Et ça, c'était donc ce spectacle-là qui était organisé. Moi, je l'ai appelé l'impromptu de Saint-Pierre pour montrer combien c'était uniquement un spectacle avec tout ce qu'il fallait de mise en scène. Et en fait, c'est destiné à masquer, et c'est là que ça devient intéressant par rapport à la façon dont on nous présente la politique dans les grands médias. C'est-à-dire, on vous a présenté un spectacle de masse, grande diffusion instantanée dans le monde entier, et puis en fait, au même moment... Mais ça, on vous en a presque pas parlé, il faut aller chercher, mais on trouve. Au même moment, M. Poutine recevait l'envoyé spécial de M. Trump pour les questions ukrainiennes, qui s'appelle M. Witkoff, et ils ont eu un long entretien. Mais ce n'est pas le premier, il y en aura d'autres, parce qu'eux, ils parlent sérieusement du problème. Et ça, effectivement, ce n'est pas très intéressant. Ça ne fait pas la une, il n'y a pas d'effet extraordinaire. Ils se sont vus, mais la différence entre 15 minutes donc dans le grand show spectacle et puis la rencontre entre Witkoff et Poutine, qui est donc la troisième ou quatrième du genre, a duré 3 heures. Donc c'est assez, on parle vraiment du fond du problème. Bon. Mais ça, on ne vous en parlera pas parce qu'ils ne sont pas sortis au bout des 3 heures en disant on a conclu un accord ni quoi que ce soit. Et ce qu'on en sait... Ça a été détaillé un peu par Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe. Ça a été de dire, eh ben, la Russie continue à défendre ses positions, c'est-à-dire on n'a pas fait cette opération guerrière pour arriver à une espèce de cessez-le-feu où chacun reprendra ses billes et où on n'aura rien réglé. Il y a des problèmes de fond. Alors je les souligne, il y a d'une part une population ukrainienne qui a été maltraitée par un gouvernement ukrainien, bon, et donc qui a décidé qu'elle ne voulait plus vivre avec eux. Il y a eu un coup d'État organisé par les États-Unis, il y en avait eu un premier en 2004, un deuxième en 2014, et puis il y a autour du pouvoir, alors on ne sait pas, Zelensky, on ne sait pas ce que c'est une espèce d'acte, c'est un acteur au départ, qui a été mis là pour les besoins de la cause. En fait, il est entre les mains d'un certain nombre de bandes de néo-nazis qu'on connaît individuellement, on connaît leur parcours, on connaît leurs origines historiques, on sait qu'ils avaient déjà des ancêtres, leur papa ou leur grand-papa, qui étaient du côté de Hitler au moment de l'activité, donc l'invasion de l'Ukraine et de l'URSS par Hitler. Donc il n'y a pas de souci, c'est pas une accusation gratuite en disant c'est des néo-nazis. Non, c'est des fils de nazis ou des petits-fils de nazis qui revendiquent un héritage nazi. Bon. Et donc, c'est bien là, et la Russie passe son temps à dire, mais c'est ça que je ne veux pas, parce que les néo-nazis, ça fait n'importe quoi, et moi, ça m'a coûté très, très cher. Je rappelle, parce qu'ils le disent, et on en reparlera la semaine prochaine, puisque vous savez que le 9 mai, il y aura une grande, grande cérémonie de célébration du 80e anniversaire de la fin de la guerre, au moins en Europe, de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a coûté cette élimination du nazisme qu'on pouvait espérer être définitive, ça a coûté quelque chose comme 27 millions de morts du côté de l'URSS. C'est beaucoup et on oublie de le dire. Et ça a coûté aussi, puisque ça s'est fini par la capitulation du Reich nazi, et la capitulation du Reich, c'était effectivement l'arrivée de l'armée rouge à Berlin, le suicide d'Hitler qui avait précédé de quelques heures l'arrivée de l'armée rouge à Berlin, la prise du Reichstag, et puis la capture de la direction politique du régime nazi. Il s'en suivra le procès de Nuremberg, vous savez, tout ça est connu. Mais il a fallu que ce soit l'armée rouge qui vienne. Je rappelle que la bataille de Berlin, donc mai 1945, a coûté 180 000 hommes à l'armée rouge. C'était pas facile, parce que l'armée du Reich, l'armée nazie, s'est défendue jusqu'au dernier soldat, parce qu'il défendait le cœur du régime. Bon. L'espoir était, et c'est un espoir qui mérite encore d'être partagé, qu'il n'y ait plus jamais de tentative nazie, c'est-à-dire de régime politique disant que tel ou tel personnage, qu'il soit juif, qu'il soit gitan, qu'il soit homosexuel, ce personnage n'a pas le droit de vivre en tant que tel. Nous sommes une race supérieure et tous ceux qui ne sont pas de cette race supérieure, qu'ils soient slaves, qu'ils soient gitans, tziganes, qu'ils soient homosexuels, on les élimine. Bon, c'est ça, il faut toujours le rappeler, c'est ça la lutte contre le nazisme, elle a ce sens-là, c'est-à-dire éviter qu'un homme soit tué pour ce qu'il est, pas pour le régime qu'il défend. Les tziganes qui ont été ramassés, ils défendaient aucun régime politique, ils défendaient leur mode de vie, ils défendaient le droit de vivre et de manger, c'était tout. Les homosexuels, surtout hommes, puisque c'est eux, surtout eux qui ont été visés, ne défendaient que leur droit à leur liberté sexuelle, c'était tout. Mais en tant que tels, ils avaient, vous le savez, une étoile rose, on a parlé de l'étoile jaune pour les juifs, les homosexuels hommes avaient une étoile rose, et donc on savait dans la rue qui était homosexuel, et le fait de porter cette étoile, ça donnait le droit à n'importe quel militant nazi de sortir son revolver et d'abattre la personne qui portait cette étoile rose. C'est ça que ça veut dire le nazisme. Ça a encore du sens aujourd'hui, c'est-à-dire éviter qu'on colle sur un individu une étiquette disant que lui, il est mauvais, il est inférieur, et donc donner le droit à l'élimination. Tout ça garde beaucoup de sens, puis on en reparlera, puisque je pense que la cérémonie du 9 mai donc 2025 à Moscou sera grandiose, et on aura l'occasion de faire des commentaires là-dessus. Et puisque je suis sur la Russie, quelques petits mots sur ce qu'on appelait la fin de l'opération Koursk. Alors je rappelle qu'effectivement, au mois d'août 2024, le gouvernement ukrainien dit « je vais envahir une partie du territoire de la Fédération de Russie ». Donc ça s'appelait l'opération de Koursk, du nom de la ville qui était centrale dans cette opération. Cette opération est terminée. Ça a été confirmé par le chef d'état-major russe ces derniers jours, par M. Gerasimov, et ça a été reconfirmé à nouveau par le président russe. C'est-à-dire que cette opération est terminée. Il n'y a plus sur le sol de la Fédération de Russie aucun soldat ukrainien ou assimilé. Et donc le bilan a été fait numériquement, l'armée ukrainienne a laissé sur le terrain 76 000 cadavres. Donc le combat a pris plusieurs mois et a été très très dur. Il faut savoir que l'Ukraine et l'OTAN qui l'organisent, disons, avaient mis le maximum de moyens techniques et les meilleurs combattants possibles dans l'opération de Koursk. Et donc l'opération de Koursk est terminée. Ça c'est tout à fait important. Et la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun soldat donc, de l'OTAN ukrainien sur le sol de la Fédération russe, mais ça a été l'occasion aussi d'une confirmation. Alors c'est assez amusant l'histoire, puisque en fait, à cette occasion, à la fois M. Gerasimov et M. Poutine ont confirmé que dans les combats du côté de l'armée russe, il y avait effectivement des combattants nord-coréens. Alors, on en avait beaucoup parlé, ça avait fait l'objet d'allusions, mais qu'est-ce que c'est les Nord-Coréens ? Alors, je rappelle simplement, c'est assez étonnant d'ailleurs de faire le parallèle. D'un côté, vous avez l'OTAN, 26 pays, où chacun met de la sienne. On sait qu'il y a un certain nombre de légionnaires de la Légion française qui sont sur le terrain. On sait qu'il y a des Allemands, on sait qu'il y a des Britanniques, il y a un peu de tout sur le territoire ukrainien du côté OTAN. Et puis, le fait qu'il y ait eu des Nord-Coréens, ça avait été considéré comme scandaleux. Alors en fait, il faut resituer les choses dans la réalité du droit international, c'est-à-dire qu'il y a un accord de partenariat stratégique entre la République de Corée du Nord et la Fédération russe. Il est récent et vient d'être officialisé puisqu'il y a eu le passage devant les deux chambres du Parlement russe et puis une signature définitive par le président de la Russie. Il y a donc un accord de partenariat stratégique au terme duquel l'armée nord-coréenne a envoyé ce qui sont apparemment ses commandos pour aider l'armée russe. Alors, c'est de l'ordre condensé, c'est quelques milliers de personnes, donc ce n'est pas eux qui ont fait la décision. Simplement, il faut le voir, quand on a un partenariat stratégique de ce type-là et qu'on est à la tête du régime de Corée du Nord, eh bien, on a besoin d'une armée qui ait l'habitude des combats. Et il faut savoir, j'insiste beaucoup là-dessus parce que ça ne fait pas partie de ce qu'on nous explique dans la presse, que la guerre en Ukraine depuis 2022 a beaucoup, beaucoup évolué. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui face à une guerre de type nouveau où les drones, l'intelligence artificielle, la maîtrise des télécommunications deviennent absolument centrales. Et aucun pays du monde aujourd'hui n'a la maîtrise qu'a obtenue l'armée russe. Ce n'était pas du tout vrai au début de l'opération militaire spéciale, mais il est clair qu'aujourd'hui, la Russie maîtrise toutes les techniques nouvelles de combat. Or, bien entendu, quand on sait l'état dans lequel est la Corée du Sud et l'état de dépendance de la Corée du Sud par rapport à la politique des États-Unis, on considère qu'il est tout à fait raisonnable, du point de vue de la Corée du Nord, de se préparer à des types de combats modernes avec les techniques de pointe. Donc, ils sont allés à l'école. Ils sont allés à l'école. Apparemment, il y a même eu des morts nord-coréens sur le terrain. Mais il ne faut pas voir ça au-delà du respect d'un accord signé entre deux gouvernements dans une conjoncture politique que j'explique, c'est-à-dire en fait la Corée du Sud n'est pas indépendante, elle est occupée en permanence par l'armée des États-Unis, c'est quelque chose comme 30 ou 40 000 hommes en permanence sur le terrain, qui sont d'ailleurs payés, dont l'alimentation, le transport, les loisirs sont payés par la Corée du Sud. Et donc on sait qu'à tout moment, et il y a une espèce de démangeaison du côté des militaires américains, c'est-à-dire à tout moment, il y aurait un risque d'invasion du territoire de la Corée du Nord par la Corée du Sud. Alors, ça ne se passera pas, mais c'est peut-être ce qui est cette alliance nouvelle et concrète militaire entre la Russie et la Corée du Nord devrait, alors je suis rempli d'espoir par rapport à ça, redonner au peuple coréen, qui est divisé en deux artificiellement par un armistice qui est un simple arrêt des combats, rien de plus, devrait au peuple coréen la possibilité d'avoir un destin collectif. Il y a une civilisation coréenne, il y a une langue coréenne, il y a toute une vieille histoire et qui n'a rien à voir. Enfin, il y a des ressemblances, on est en Asie, mais ça n'a rien à voir avec la civilisation chinoise, ça n'est pas la civilisation japonaise, il y a une civilisation coréenne. Et moi, je ne peux que rêver qu'il y aura un jour des Coréens réunis qui vivront leur vie et leur avenir de Coréens, qui ne sera pas un avenir ni japonais, ni russe, ni chinois, parce que la Corée, ça existe. Il faut savoir que ça existe tellement que quand, en 1910, si ma mémoire ne me trompe pas, le Japon envahit la Corée, il va faire des Coréens des esclaves, il va interdire l'usage de la langue coréenne, il va obliger la totalité des Coréens à prendre des patronymes japonais. On n'est pas plus féroce dans l'éradication d'une culture. Et donc ça, ce souvenir, il est vivant chez les Coréens. Et donc on ne peut que souhaiter, il y aurait un retour vers une vraie civilisation, une vraie liberté pour ce peuple qui est très très inventif, on le voit sur toute une série de réalisations techniques et tout, qui sait se défendre et qui aspire, je le pense qu'il le pense justement. Ça ne veut pas dire que ça sera le régime qui sortirait d'une alliance, enfin d'un renouveau Nord-Sud, serait un régime communiste socialiste. J'en sais rien. Moi, ce que je postule, c'est qu'il serait bon que les Coréens, en tant que porteurs d'une civilisation millénaire, aient le droit de vivre leur vie. Après, on verra. C'est eux qui décideront. Mais je ne vais pas plus loin. Mais c'est un vrai sujet dont on ne parle pas dans ce sens-là en général. Ensuite, bon, j'ai fait un peu le tour de la situation côté russe, sans oublier quand même de mentionner qu'à nouveau un général russe a été assassiné dans un attentat donc téléguidé par les services ukrainiens. Bon, ce n'est pas le premier, c'est le deuxième. Sans protection, donc un général russe qui faisait son boulot, qui allait et venait. Et donc il a eu droit à une voiture piégée à sortant de chez lui. Bon, il est mort. Ça fait partie d'autres aspects de la guerre menée par l'Ukraine et les néo-nazis. Et j'en viens à parler plus précisément de ce qui se passe du côté du détroit d'Ormuz. Alors vous savez tous ce que c'est et où c'est le détroit d'Ormuz. Alors Thibault, que je remercie d'ailleurs pour être là, dit détroit d'Ormuz. Alors c'est le détroit donc qui marque le passage donc du golfe arabo-persique à la mer d'Arabie. Et par où passe, alors c'est très très important, il est stratégique d'une part, parce qu'il est tenu rive nord par l'Iran et rive sud par Oman. Oman qui est un émirat, mais un peu particulier, je m'attends pas là-dessus, mais un peu particulier. Bon, il trouve qu'il passe par ce détroit d'Ormuz, au moins la moitié des exportations de pétrole irakien, le pétrole de la partie sud de l'Irak, tout le pétrole du Koweït qui ne peut pas sortir rien, une partie du pétrole d'Arabie Saoudite, une partie du pétrole iranien, une partie du pétrole d'Abu Dhabi, ça fait beaucoup. C'est donc un endroit très très fragile. Bon. Et il se trouve que, donc, sur la rive iranienne, il y a un port qui s'appelle Bandar Abbas, et une ville du même nom, où a eu lieu, donc, je crois que c'était samedi, alors qu'est-ce que c'est ? On ne sait pas. Une explosion, alors je ne mets pas le qualificatif d'attentat, une explosion assez ravageuse, puisqu'en fait, il semblerait, enfin, les derniers bilans font état d'au moins 40 ou 50 morts, des milliers de blessés. À l'intérieur d'un parc de containers. Alors, Bandar Abbas, c'est un port classique avec des grands containers et des containers sur le quai qu'on peut en voir dans le monde entier, y compris ici à Marseille et à Fos. Et donc, il y a eu une explosion dans ce port-là. Cette explosion, elle a été peu commentée. Côté iranien, on a surtout fait le bilan des mesures pour éviter que ça se propage, les mesures pour sauver les blessés, etc. Et en fait, elle a été commentée. Pour l'instant, je n'ai trouvé que le New York Times pour expliquer. On dit, c'est quand même bizarre, pourquoi il n'y a que le New York Times qui sait ce qui s'est passé ? Ah, bon, alors on peut se poser la question de leur source d'information. Alors d'après le New York Times, je vous livre ce que dit le New York Times, il s'agit donc d'un produit chimique qui s'appelle le perchlorate de sodium, qui est un produit qui est très stable à l'état naturel et qui fait pendant à ce qui a été le produit qui a explosé dans le port de Beyrouth, si vous avez ce souvenir, donc il y a 3 ans, qui était lui du nitrate d'ammonium. Et ces deux produits ont cette particularité qu'à l'état normal, le nitrate d'ammonium, on le met dans un bateau, sur des camions et tout, on ne craint rien. Hein. C'est-à-dire, le nitrate d'ammonium est un engrais très très connu et donc il y a des millions d'agriculteurs qui jettent du nitrate d'ammonium sur leurs champs, il ne leur arrive rien. Bon. Mais il se trouve que si vous mettez le feu à un stock de nitrate d'ammonium, vous avez un explosif extraordinairement puissant. C'est la même chose pour le perchlorate de sodium. Et donc, probablement, il y avait là un conteneur, quelques tonnes de ce produit-là. Et celui qui a mis le feu savait ce qu'il faisait. Il a amené de la chaleur et à ce moment-là, c'est explosif. Et c'est explosif d'une façon très, très révélatrice, puisque en fait, toutes les maisons alentour ont sauté, un millier de blessés, je vous l'ai dit. Le port est assez largement, enfin au moins la partie où était le conteneur est assez largement dévastée. Et puis, on n'en sait pas plus. Personne ne cherche de responsabilité. Et la seule chose qui sort, c'est presque cocasse, c'est le ministère de la Défense israélien qui dit « c'est pas moi ». Bon, autrement, tout le monde est silencieux. Alors, comment interpréter ça? Parce qu'il faut savoir que je vous parlais donc des deux pays riverains du détroit d'Ormuz. Il y a d'un côté au nord l'Iran, donc avec Bandar Abbas, de l'autre côté le sultanat d'Oman. Bon. Et il se trouve que c'est dans le sultanat d'Oman qu'ont lieu en ce moment les négociations entre l'Iran et les États-Unis au sujet de la capacité nucléaire du régime iranien. Bon. Alors, est-ce qu'il y a... Alors, il y a tout type de liens possibles. Est-ce qu'il y a des gens qui s'imaginent qu'effectivement, comme c'est pour parler avance, dans un sens qui serait plutôt dans le sens de l'apaisement, je vais y revenir plus en détail, est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas que cet apaisement soit en perspective et qui vont essayer de troubler le jeu? Et l'attentat de Bandar Abbas pouvait faire partie d'une espèce de manifestation de mécontentement de ce qu'on appellerait facilement des faucons qui ne voudraient pas qu'il y ait d'accord. Alors, c'est à peine surprenant, c'est-à-dire que les positions de l'administration Trump, là aussi, sont très particulières, mais ça ressemble à ce qui s'est passé à Rome. C'est-à-dire, d'un côté, on a une espèce de discours excessif, mais qui a beaucoup, une durée de vie relativement courte de Trump, dont le vocabulaire, on le sait, ça a été démontré dans une étude, est extrêmement pauvre. C'est tout à fait clair. Et d'un autre côté, la réalité de l'exercice du pouvoir par une administration qui est bien obligée de faire marcher la machine. Bon. Et donc là aussi, comme dans le cas de Witkoff à Moscou, il y a un envoyé spécial qui est un autre milliardaire, puisque Trump envoie toujours des milliardaires. Alors lui, il sait qu'il est milliardaire, mais qu'il n'a pas beaucoup de vocabulaire, donc il est réduit aux effets de tribune. Mais il envoie des milliardaires savants qui à la fois savent manier l'argent et savent réfléchir. Alors, je veux pas le diminuer, il est comme ça et il est hélas à l'image du système éducatif des États-Unis, c'est-à-dire avec une couche d'élite extraordinairement cultivée et très très bien formée, et puis un peuple qui est laissé plutôt à l'abandon du point de vue culturel ou qui est livré à une subculture d'assez mauvaise qualité. Bon. Ça, Trump est une bonne image. Il y a beaucoup de gens qui disent pourquoi les Américains l'ont élu. Je dis parce qu'il leur ressemble majoritairement, c'est tout. On n'a pas 80 millions de voix comme il l'a eu si on est complètement à côté de la plaque, si on n'a pas un écho dans la population. ça grandit pas les États-Unis, mais ils ont d'autres raisons de ne pas l'être. Et ça explique la façon dont ils travaillent. Et lui, il sait, parce qu'il a dans ses copains des milliardaires qui, eux, ont fait des belles études, savent réfléchir, savent négocier, et c'est eux qui vont effectivement, comme Witkoff à Moscou, discuter. Sur la question iranienne, bon, la position est relativement simple, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que Trump va être obligé, je pense qu'on en prend le chemin, de reconnaître que quand il a aboli lui-même au cours de son premier mandat les accords sur le nucléaire iranien, il est obligé de revenir sur cette abolition. Alors c'est pas très très facile, il faut embellir la chose, disons qu'il a obtenu des concessions supplémentaires et tout, mais en fait il n'obtiendra pas grand-chose dans ce sens que et la Russie s'est portée garante du fait qu'elle a constater qu'elle sait qu'il n'y a pas de nucléaire militaire possible aujourd'hui en Iran. Il y a de l'enrichissement de l'uranium à des fins scientifiques, techniques, etc. Il n'y a pas plus. Et que, de toute façon, d'une part, la Russie atteste de cette réalité qu'elle connaît, puisque la centrale nucléaire qui existe aujourd'hui en Iran, c'est une centrale fabriquée par des Russes, dont le combustible est fourni par des Russes, et dont le retraitement des combustibles usés est fait par la Russie elle-même chez elle. Donc, le contrôle est très très clair. Et puis l'Agence internationale pour l'énergie atomique a des inspecteurs qu'elle envoie, puisque l'Iran est signataire du traité de non-prolifération nucléaire. Et donc là aussi, c'est suivi de très très près. Alors je m'arrête un peu sur l'Agence internationale de l'énergie atomique et sur son directeur, M. Raphaël Grossi, citoyen argentin d'origine, qui a une attitude assez étrange. C'est-à-dire que on devrait avoir affaire à un monsieur qui a une formation scientifique nucléaire de très très haut niveau, qui est à la tête de la principale organisation mondiale de surveillance pour éviter la prolifération des armes nucléaires. Et quand il se met à parler de l'Iran, il a un discours vague, il a un discours de tribune télévisée. Oui, ils s'approchent, ils ne sont pas loin. Mais ça veut dire quoi, monsieur? Vous dites un chiffre, vous dites ils savent faire ça, ça ils ne savent pas le faire. J'ai mes inspecteurs sur place, ils ne pourront pas le faire. Alors, quand on en est à ce niveau-là d'ambiguïté politique, ça veut dire qu'on n'est plus tout à fait le scientifique qu'on était, qu'on est resté peut-être dans ses profondeurs, qu'on a pour être choisi à ce poste d'extrême responsabilité. Il s'agit effectivement de la part des puissances nucléaires d'éviter que d'autres puissances nucléaires s'installent sur le marché de l'arme nucléaire. C'est pas rien. C'est pas rien. Et c'est pas rien pour les 8 milliards d'habitants de la planète. Il faut éviter qu'il y en ait d'autres qui fassent des bêtises. C'est tout à fait clair comme objectif. Et là, il est ambigu, comme il est ambigu sur la question des centrales nucléaires en Ukraine. Et je reviens sur l'Ukraine. Parce que vous savez, ou vous ne savez pas, mais peu importe, je le décris rapidement, que la totalité des centrales nucléaires produisant de l'électricité sur le territoire ukrainien sont des créations de l'Union soviétique au moment où elle était là. Et que la plus grosse, qui est la plus grosse centrale nucléaire d'Europe et probablement même du monde, comporte six groupes, comme on dit, donc la fameuse centrale de Zaporoïe, qui est aujourd'hui dans le côté russe de l'Ukraine telle qu'elle est aujourd'hui. Et en fait, sur cette question-là, il faut savoir que c'est assez étonnant la position de l'AIEA et de M. Grossi. Sur cette question-là, il a une position là aussi ambiguë, c'est-à-dire qu'il a des équipes donc, d'inspecteurs qui sont en permanence dans les trois centrales qui sont sur le territoire ukrainien, qui sont plus petites, et il a aussi des inspecteurs qui sont en permanence, avec l'accord de la direction russe de cette centrale, à Zaporoïe. Et curieusement, chaque fois qu'il y a des tentatives d'attaque par les Ukrainiens de la centrale de Zaporoïe, dont ils revendiquent la propriété, l'AIEA et M. Grossi disent « Ah, c'est bizarre, il y a eu des tirs », et ils ne disent pas d'où ça vient. Alors, ils disent pas d'où ça vient, alors que c'est extrêmement visible. Et puis, les Russes ne sont pas suffisamment stupides pour se tirer eux-mêmes sur une centrale qui risquerait d'exploser si... Bon, voilà. Donc, Tchernobyl, ils ont donné une fois. Ils n'ont évidemment pas envie de recommencer. Et donc, là aussi, M. Grossi est ambigu. Alors, je ne m'attaque pas spécialement à M. Grossi. Ce qu'il faut savoir et qu'il faut que nous comprenions, c'est que le système ONU, tel qu'il a été mis en place en 1945, s'est petit à petit perverti. Et l'expérience montre que dans toute série d'organismes dépendants de l'ONU, les États-Unis arrivent à mettre à leur tête des gens qui sont plutôt un penchant états-unien, un penchant occidental. Ça, c'est un vrai problème pour l'avenir de l'Organisation des Nations Unies. Il faudra que ce genre de comportement cesse, c'est-à-dire qu'on ait affaire à des techniciens, des spécialistes de tel ou tel armement chimique, nucléaire, etc., qui soient libres de leurs propos, qui ne soient pas dépendants d'une pression des États-Unis. On sait, par exemple, ça a été pendant la guerre d'Irak, et je le rappelle parce que ça me revient à l'esprit, qu'un inspecteur brésilien qui disait que par rapport à les accusations disant que l'Irak avait l'arme atomique, avait dit que ça ne tenait pas debout, et il a raconté qu'il avait été convoqué par le représentant permanent des États-Unis à l'ONU, qui lui avait dit en substance « Monsieur, on n'admet pas ce que vous dites, et on sait où vos enfants vont à l'école. » On sait où vos enfants vont à l'école. C'est-à-dire, monsieur, si vous ne voulez pas que vos enfants meurent un beau jour ou soient enlevés, hein, vous la fermez. C'est comme ça que ça fonctionne dans les couloirs de la maison de verre, comme on dit. C'est pas toujours très, très propre. Bien. Voilà quelques mots donc sur le nucléaire, sur l'Iran et tout. Alors, moi, j'ai espoir, et effectivement, le calme qui entoure il y a peu de commentaires sur les négociations réelles qui ont lieu donc à Oman entre la délégation des États-Unis et la délégation iranienne, mais je pense qu'on va vers une reconnaissance du fait, qui est confirmée donc par ailleurs ce que je disais, du fait que l'énergie nucléaire, ça fait partie du programme iranien, l'utilisation scientifique des éléments radioactifs, ça fait partie du programme, et que la bombe n'en fait pas partie, et que d'ailleurs, je le répète, mais comme on n'a pas de façon de prouver le contraire, on ne peut qu'agiter de vagues menaces, je le répète, le gouvernement iranien et les dirigeants iraniens, à tout moment, tout autant de fois que nécessaire, ont dit qu'ils ne voulaient pas de l'arme nucléaire. Et je précise, pour bien faire comprendre qu'il ne s'agit pas de naïveté, je précise qu'ils ont mis au point un système de défense sur la base de missiles extrêmement sophistiqués, hypersoniques pour une part d'entre eux, qui leur permettent d'assurer leur défense. Et donc là, aucun pays ne peut être accusé de ne pas se préoccuper de sa défense et de se donner les moyens, et pas d'attaquer les autres en les nucléarisant. Voilà. On va faire, pas une petite pause, mais on va changer de pays et de continent, je vais vous faire écouter donc un enregistrement qui est passé par WhatsApp hier matin, qui vient donc, alors je précise qui est l'auteur qu'on va entendre tout à l'heure, il s'appelle Romain Migus. Il est donc français. Il est installé maintenant en permanence au Pérou et il circule, il sillonne l'Amérique latine en permanence. Et là, il nous a envoyé donc un petit billet sur une élection un peu particulière qui a eu lieu ce dimanche, donc 48 heures au Venezuela, qui donne à réfléchir sur un sujet qui n'est pas abordé, si ce n'est de façon théorique, chez les militants français, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que la démocratie réellement existante ? Comparé. Alors, on écoute Romain Migus. Alors, je signale que si vous vous intéressez à Romain Migus et à son travail, il est à la tête d'un site internet qui s'appelle Les Deux Rives, donc les deux rives de l'Atlantique entre l'Europe et l'Amérique latine. Voilà, on écoute Romain Migus.
Bonjour Bernard, merci de l'invitation. Je vais parler du Venezuela. Pourquoi le Venezuela ? Eh bien, parce que les médias n'en parlent pas. Or, il s'est passé quelque chose de très intéressant. Alors ça, pour dire que le Venezuela est une dictature, blablabla, Maduro, le crime, ça, évidemment, dès qu'il s'agit de défendre les intérêts stratégiques de Washington, les médias français s'alignent. Néanmoins, il s'est passé quelque chose, dimanche 27 avril, il y a eu une consultation populaire. C'est la quatrième consultation populaire, il y en a grosso modo une par trimestre, qui a mobilisé 47 000 communautés de voisinage, 47 000 conseils communaux regroupés dans 5 338 circuits communaux. Oh là là, mais de quoi il parle ? Eh bien, de la démocratie participative au Venezuela. C'est une colonne vertébrale de la révolution bolivarienne. Et on est au-delà de la démocratie électorale ou électoraliste ou... un citoyen délègue sa souveraineté pour un laps de temps donné à un représentant. La démocratie participative et protagonique, c'est tout le temps, en assemblée populaire, de décider de la vie du quartier, de la commune. Alors la commune, c'est une agrégation des conseils communaux autour d'un projet productif. Alors c'est quoi cette consultation ? Eh bien, les 47 214 conseils communaux se sont d'abord réunis et ont décider des projets les plus urgents à tenir dans le quartier. Ils ont fait une liste de 3, 4, 5 projets urgents. Et ensuite, ils ont amené leur projet dans la commune, qui est une agrégation de 10-12 conseils communaux autour de projets productifs. Toutes les décisions se prennent en assemblée générale, à main levée, hein, c'est la démocratie de tous les jours. Et dans la commune, donc elle a agrégé évidemment la plupart des projets de tous les conseils communaux. Et ce dimanche 27 avril, les citoyens se sont mobilisés pour voter pour le projet qui leur tient à cœur dans leur quartier. Et le projet qui arrive en tête est financé par l'État, et le deuxième est financé par les mairies et les régions. Voilà. Et donc c'est comme ça que, pour la quatrième fois consécutive, les Vénézuéliens ont financé, autour de 5 000 projets. Donc depuis l'instauration de ce système, ce sont pas moins de 20 000 projets qui ont été financés pour un budget avoisinant les 200 millions de dollars. Voilà. Donc c'est évidemment très important, c'est la démocratie de tous les jours au Venezuela. Et je voudrais terminer en mentionnant quelque chose de très important. C'est que 47 000 communautés de voisinage, donc réunies dans les conseils communaux, au bas mot, ça fait à peu près 5 à 6 millions de votes. Hein? Alors évidemment, tout le monde n'est pas chaviste. D'ailleurs, on ne demande pas d'être membre du Parti Socialiste Uni du Venezuela pour venir voter pour les projets de quartier. Pas du tout. Il y a aussi des opposants qui votent parce qu'ils vivent dans ces quartiers. D'ailleurs, ce n'est pas uniquement dans les quartiers populaires, il y a aussi les quartiers de classe moyenne. Mais quand même, ceux qui s'organisent dans les conseils communaux, et y compris les quartiers, il y a quand même beaucoup, beaucoup de chavistes. Pourquoi je dis ça? Ben parce que, voilà, là, on a une base solide, une colonne vertébrale, comme je disais, de la démocratie participative de la révolution bolivarienne. Donc, quand vous entendez dans les médias, Maduro est tout seul, il a dû faire fraude, etc., ben il a quand même des bases assez solides, même au niveau électoral. Voilà, merci beaucoup.
Voilà, donc merci à Romain Migus, que vous pourrez retrouver sur son site, donc Les Deux Rives, qui fait des chroniques très très régulières et beaucoup plus longues que là, donc d'une heure et demie, sur tel et tel sujet concernant l'Amérique latine. Donc lui, il est basé pour l'instant au Pérou, mais il circule, et je pense, puisqu'il me l'a dit au téléphone, qu'on l'aura sur place à Marseille au mois de juillet et qu'on le retrouvera sur les ondes de Radio Galère en notre compagnie. Alors c'est très intéressant de développer par rapport à ça, mais ça veut dire que vous avez d'un côté, que l'on comprend bien, vous avez des mairies, des régions qui sont installées comme dans toutes les constitutions des républiques, et vous avez en même temps une possibilité, par cette assemblée de masse, de dire tel projet qui a été oublié ou qui était au programme de l'élection mais qui n'a pas été tenu ou qui apparaît parce qu'il y a une urgence, on va le prendre en charge. Et donc on délibère, on le vote. Et on le vote, alors il y a des gens qui préparent, et puis ensuite on soumet ça à l'Assemblée générale, et donc il y a un vote là-dessus. Et ce vote s'impose à la communauté de communes, c'est-à-dire c'est l'État qui va prendre ce projet-là, il va le financer en disant ben, ça a été oublié ou c'est une urgence qui est apparue maintenant, on le fait. Hein, et puis la mairie, par ailleurs, continue à faire le programme pour lequel elle a été élue. Donc il n'y a pas dissociation, il n'y a pas élimination de la mairie, il y a seulement une rectification sur la base du débat démocratique d'erreurs ou d'urgences à régler qui ne l'ont pas été dans le programme classique. C'est-à-dire on sort de cette règle, et c'est ça qui est important pour nos réflexions, de dire on met une équipe à la tête d'une collectivité territoriale pour 5 ans, et puis pendant 5 ans, au moins pendant 4, parce qu'elle fera ce qu'elle voudra, peut-être la cinquième année, elle rectifiera le tir, mais pendant 4 ans, elle fait ce qu'elle veut. Hein. Bon, mais ce n'est pas comme ça. Effectivement, s'il y a quelque chose qui a échappé, s'il y a une erreur, s'il y a un phénomène nouveau, un sujet nouveau de préoccupation, il peut réémerger dans le débat démocratique. Donc les communes continuent à exister, mais c'est l'État qui dit là, vous avez oublié quelque chose, où il y a un manque, où il y a une urgence à régler, on met au point un système où la population peut s'exprimer n'importe quand. Je rappelle que c'est exactement dans le même esprit que dans la même constitution bolivarienne, il est prévu des référendums révocatoires. Je m'arrête là-dessus parce qu'on n'est jamais, il est toujours temps de le rappeler. Référendum révocatoire, ça veut dire qu'à tous les niveaux électoraux, y compris que ce soit un conseiller municipal ou un maire et le président de la République, un certain nombre de signatures sont évidemment nécessaires et pas dans les 3 semaines suivant l'élection, ben ce serait un règlement de compte politicien. Au bout d'un certain temps, au bout de 2 ans de mandat dans le cas du président de la République, s'il y a suffisamment de demandes avec des signatures sur une pétition, il y a un nouveau référendum pour savoir si ce président qu'on a élu, il faut qu'il reste. C'est-à-dire, est-ce qu'il a carrément trahi? Est-ce qu'il nous a raconté des salades? Est-ce qu'il a fait exactement ce qu'il avait dit qu'il ne ferait pas? Bon, tout ça, il y a une sanction. Alors, on est très très loin, j'insiste là-dessus, parce qu'il y a des groupes militants en France qui parlent du référendum d'initiative citoyenne qui existe aujourd'hui dans la Constitution de la Ve République. Alors, j'insiste sur le fait que ce référendum d'initiative citoyenne est une invention d'un certain Nicolas Sarkozy. Et donc, rien que ça, cette paternité fait question. Alors, le référendum d'initiative citoyenne, ça veut dire qu'effectivement que des citoyens peuvent demander, mais qu'il faut ensuite qu'il y ait une majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat qui décide qu'il y aura un référendum. Et donc là, on est devant une difficulté réelle. Alors, ça existe, c'est joli dans la Constitution. Je pense que vu les procédures, les majorités communes, enfin, on rassemble le Sénat et l'Assemblée nationale et on arrive à avoir une position commune pour destituer un président, je ne vois pas. Regardez aujourd'hui la composition des deux assemblées. Est-ce que vous trouveriez une majorité des 2/3 ? Des 2/3 de ces 2 assemblées réunies pour dire on fait un référendum pour destituer Emmanuel Macron, je ne pense pas qu'on y arriverait. Donc, pour moi, le référendum d'initiative citoyenne est un leurre. Alors que là, dans le référendum révocatoire à la vénézuélienne, Chavez lui-même a eu droit à un référendum révocatoire qu'il a gagné, point, c'est tout. Alors que l'opposition s'était jetée sur la possibilité, ça a marché, il n'a pas perdu. Voilà, un petit mot sur les innovations, parce que c'est une véritable innovation, et ça correspond, j'insiste, ça correspond à des interrogations que des groupes militants ici ont, c'est-à-dire comment on fait pour effectivement rectifier le tir, ou rappeler à une mairie qu'elle a été élue sur un programme et qu'elle est en train de l'oublier, ou qu'il y a effectivement une donnée nouvelle sur laquelle il faut qu'elle prenne position et qu'elle mette les moyens pour. Bon, là, dans le cas vénézuélien, vous avez vu, il n'y a pas dessaisissement de la commune, elle continue d'exister, il y a simplement l'État qu'il y a attention, là, je mets de l'argent parce qu'il faut rectifier le tir. Bon, c'est très très bien, à mon avis, c'est porteur d'avenir. Je reviens un petit peu j'avais oublié d'en parler, dans ce qui se passe aussi dans la région moyenne-orientale, puisqu'il y a eu un attentat au Pakistan. Plus précisément au Cachemire. Alors je rappelle très très succinctement, le Cachemire, c'est une province qui est à majorité musulmane, mais qui avait un gouverneur indien, et donc hindouiste au passage, et où il y avait une espèce de conflit entre ce pouvoir et puis la population dans sa réalité. Monsieur Modi, l'actuel Premier ministre indien, a fait une retouche, c'est-à-dire qu'il a organisé un changement de la Constitution qui permet en fait à des hindous de s'installer dans la province musulmane à majorité. Donc il est en train de faire un bricolage pour essayer de faire basculer la majorité électorale. Bon, ça fait quelques années que ça dure. Ça rappelle, alors à une autre échelle, bien entendu, le bricolage électoral qui a lieu en Kanaky, chez nous. Donc recomposer la majorité électorale pour faire changer le résultat des votes. Bon. Et il se trouve qu'il y a eu un attentat. Alors, on ne sait pas trop qui c'est, on ne sait pas trop pourquoi, mais on sait que cet attentat a quasiment coïncidé avec la longue visite de monsieur le vice-président des États-Unis, monsieur J.D. Vance, et de son épouse à New Delhi, qui a été reçu avec tous les honneurs dus à son rang par le Premier ministre Modi. Plus que ça, puisqu'en fait, c'est une visite qui a pris en même temps un caractère familial, puisqu'on a vu les enfants de M. Vance et de Mme Vance, qui est elle-même hindouiste, sauter sur les genoux de ce brave M. Modi. Donc, on a une vraie intervention des États-Unis dans cette zone du monde. Les États-Unis essayant par tous les moyens, en particulier celui-là, donc il y a un biais de civilisation, et en partie religieux, puisque je dis Madame Vance, elle est hindouiste, d'essayer de compliquer la vie dans les relations entre l'Inde et la Chine. C'est ça le but de la manœuvre. Donc, cette visite tout à fait importante, il est resté 4 jours quand même, Vance, à New Delhi, cette visite a pu donner des idées à des gens qui ont dit c'est le moment de mettre le feu au conflit entre le Pakistan et l'Inde, qui est un vieux conflit qui n'est pas réglé. Alors, il n'est pas réglé. Ce que je regrette, c'est que, mais c'est un trait journalistique caractérisé, c'est que chaque fois qu'il y a une tension comme ça, même si elle est particulièrement vive dans ce cas-là, entre le Pakistan et l'Inde, les journalistes passent leur temps à dire ils ont tous les deux l'arme atomique. Bon, ça, on le sait, mais on ne sort pas l'arme atomique comme ça, d'autant plus que l'arme atomique d'un pays sur son voisin, il y en a pour tout le monde, je veux dire, c'est complètement irréaliste. C'est un peu comme l'approche, l'analyse de l'arme atomique israélienne, mais alors après, les Israéliens ont trouvé un raisonnement, mais on mourra, mais ils mourront aussi. Alors, ce raisonnement a des limites. Hein. Et donc, on ne voit pas, s'il y en a un des deux qui utilisait la bombe, l'autre riposterait, il y aurait des centaines de millions de morts des deux côtés. Il n'y a pas d'intérêt. Donc, ce n'est pas ça le problème. Il y a un problème. Alors, le problème de fond, il est que la décolonisation à la britannique est une catastrophe avérée, historique. C'est-à-dire que quand les Britanniques quittent un territoire, ils laissent des facteurs de désordre pour une centaine d'années à suivre. C'est ça le résultat de la partition. Je ne peux que vous rappeler, à ceux qui ne l'ont pas lu, lisez Les Enfants de minuit de Salman Rushdie, vous verrez ce que c'est, que ce qui s'est passé ces jours-là dans cette partition donc voulue par le décolonisateur. Et puis, j'allais vous parler un petit peu de ce qui se passe en Palestine et autour de la Palestine. Il se passe plusieurs choses. C'est-à-dire qu'on a une représentante qui s'appelle Madame Elinor Hammarskjöld, qui est conseillère juridique de l'ONU, qui rappelle à l'Israël son obligation d'acheminer l'aide humanitaire à Gaza. Alors on en est là, c'est-à-dire que vous savez, si vous suivez ça au jour le jour, que le gouvernement de Netanyahou en est arrivé à dire « maintenant on va faire mourir les Gazaouis de faim ». Point. Et effectivement, comme ils tiennent tous les accès, comme aucune aide humanitaire ne peut arriver s'ils ne la laissent pas passer, effectivement, l'ONU, à juste titre, s'est chargée, intervient sur ce problème. Et donc, voilà ce qui se discute maintenant. Et donc, ce problème a été posé devant la Cour internationale de justice par la conseillère juridique de l'ONU, donc par l'ONU en tant que telle. Avec les limites du genre. Les limites du genre, c'est que, vous le savez, on l'a dit et redit, la Cour internationale de justice n'a pas de bras armés pour l'exécution de ses positions. Bon. Mais ceci étant, le fait qu'elle se saisisse d'un sujet et qu'elle ait des positions claires sur ce sujet-là et sur la question des droits de l'homme et le droit à l'accès à l'aide humanitaire, je pense qu'il n'y aura pas de contestation possible, affaiblit politiquement la position de Netanyahou et de son gouvernement. Ce n'est pas décisif, ça fait partie d'un rapport de force politique global, mais il est important que ça ait lieu. Et je me félicite que ça ait lieu. Il était temps, effectivement, que l'ONU ne se fasse pas marcher sur les pieds à ce niveau-là, qui est le pire niveau, puisqu'il s'agit d'affamer, il s'agit de faire mourir de faim 2 millions de personnes, hein, devant les regards ébouis et bobis de la communauté internationale. Bon, ça paraît plus possible et c'est bien que ça démarre. Et puis, en évoquant le nom de cette dame qui s'appelle Elinor Hammarskjöld, on ne peut pas ne pas penser à son arrière-grand-père. Ah, alors ça c'est un souvenir pour des gens de ma génération. Dag Hammarskjöld a été premier ministre suédois à l'époque et il a été, je crois, le deuxième secrétaire général de l'ONU après 1945. Et il avait une position extrêmement ferme sur la décolonisation qui était en cours. Il était secrétaire général de l'ONU dans les années 60 et donc il est beaucoup intervenu en Afrique en particulier au moment de la libération du Congo, de l'affaire Lumumba, vous savez tout ça. Et M. Dag Hammarskjöld, je m'arrête un peu là-dessus puisque l'occasion m'en est donnée, est mort dans un étrange accident d'avion. Lui et sa délégation, puisqu'ils étaient en train d'essayer de faire respecter l'arrivée au pouvoir de Lumumba et donc les indépendantistes congolais au pouvoir, parce qu'ils pensaient qu'ils étaient, enfin, Hammarskjöld était favorable à la décolonisation telle qu'elle faisait partie et fait toujours partie du programme de l'ONU. Bon. Et donc l'avion tombe et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'en est au point, et c'est l'occasion qui m'est donnée de le rappeler, que pour l'instant, il y a encore des travaux d'investigation sur les causes de l'accident d'avion qui n'ont pas abouti, mais l'ONU continue à s'y intéresser. Il y a encore récemment un nouveau rapport qui a été produit, mais il y a encore un certain nombre de pays des alentours de la région. Je pense au Rwanda, je pense au Zimbabwe qui était à l'époque la Rhodésie, je pense au Congo, Congo côté Brazzaville. Il y a des gens qui savent ce qui s'est passé, et un beau jour, même si ça aura pris très très longtemps, puisque Herr Marschall il est mort en 61, on finira par savoir qu'effectivement ce monsieur, secrétaire général de l'ONU, qui appliquait la charte de l'ONU, qui disait donc les peuples colonisés ont le droit à la décolonisation et l'ONU favorise la décolonisation, ce monsieur a probablement été assassiné. Bon. C'était l'occasion de lui donner un petit coup de chapeau à l'occasion. Et puis vous voyez, comme ça, l'héritage, son arrière-petite-fille a hérité de son grand-père. Bien, et comme j'en suis à parler donc de l'ONU et d'Israël, donc il faut savoir que depuis ce matin, donc la Cour internationale de justice consacre une série d'audiences qui vont durer plusieurs jours pour mettre fin, enfin l'idée c'est de condamner au moins, même si c'est verbal, de condamner donc ce qui se passe sur le terrain en matière d'atteinte au droit de l'homme, droit même à s'alimenter, donc la tentative de tuer le monde. Alors ça va être un gros travail, comme tous les travaux que fait la Cour internationale de justice. Alors on peut toujours, moi je me déplore, effectivement il y a d'énormes travaux, vous avez 15 magistrats qui vont passer une semaine d'audience à écouter des délégations, des délégués très très bien informés sur ce qui se passe effectivement à Gaza par rapport à l'aide humanitaire et tout, et le résultat est frustrant, en ce sens qu'effectivement il y aura je pense une condamnation évidente, mais qui n'aura pas d'effet, si ce n'est, ce que je disais tout à l'heure, un effet politique, un effet sur l'opinion en général. Parce qu'il y a 38 pays qui sont inscrits pour participer au débat, c'est pas rien du tout. Il y a 15 juges, avec tout ce qu'il faut de greffiers et tout autour de ça, qui vont passer une semaine entière à essayer, enfin, à donner une position qui serait la position officielle de l'ONU sur l'interdiction d'affamer une population et de la condamner à mourir de faim massivement. Donc vont intervenir dans les débats les États-Unis, la Chine, la France, la Russie, l'Arabie Saoudite, la Ligue des États Arabes, l'Organisation de la coopération islamique, l'Union africaine. Tout le monde va venir expliquer les choses. Et il faut savoir que ça continue le travail fait par cette Cour internationale de justice qui, je le rappelle, a dit que, je le rappelle, c'était il y a plus d'un an maintenant, la Cour internationale de justice a dit qu'effectivement, il y avait une opération à caractère génocidaire qui était en cours à Gaza. Alors, ils n'ont pas dit que c'était un génocide, et ils ont quand même dit tout de suite, après avoir dit que ça avait un caractère génocidaire, qu'ils demandaient à Israël de faire un rapport et d'éviter d'aller dans ce sens, et qu'Israël s'est gentiment assis dessus leur demande. Ça, c'est bon à savoir, parce que quand on vous dit « Ah, mais il n'y a pas de génocide parce qu'elle n'a pas décidé que c'était un génocide », elle a simplement dit « tous les éléments dont nous disposons disent qu'il y a un génocide en cours ». Donc, et la dernière recommandation qu'ils faisaient dans le premier arrêt, c'est de dire « Maintenant, Israël, arrêtez hein. ». Vous êtes en train sur une très très mauvaise pente, il faudrait arrêter. Ça n'a rien fait sur Israël. Alors ça n'a rien fait. Il faut voir que ce genre de débat juridique et les positions qui sont prises et qui sont solides, je veux dire, qui sont visibles, enfin, il y a des plaidoiries qui ont été menées à l'occasion du premier débat de la CIJ, qui sont des monuments d'histoire du droit international en tant que tel, qu'on peut retrouver sur le net, etc. Bon, ça c'est très très bien. Et je veux dire que ça finit à un moment donné, il y a un moment donné où ça va finir par affaiblir la position radical de l'équipe Netanyahou sur la question de la Palestine. Alors, il est ce qu'il est, les gens qui l'entourent sont ce qu'ils sont, je n'attends rien d'eux, mais on sent venir, et ça c'est des effets progressifs à long terme. Alors vous allez dire, oui mais il y a quand même 200 personnes qui meurent tous les jours à Gaza, c'est vrai, il faut le reconnaître, et il faut ne pas l'accepter en tant que tel, moralement. Mais politiquement, le fait que la CIJ revienne sur la question en disant au régime sioniste, voilà ce que vous faites, et voilà ce que nous ne voulons pas que vous fassiez, et la communauté internationale et l'ONU vous condamnent, ça fait un effet petit à petit dans l'opinion israélienne, et on sent qu'effectivement les divisions commencent à intervenir d'une façon beaucoup plus massive que dans les débuts. Dans les débuts, c'était clair, on a tous vu et tous compris que c'était la position, c'est le Hamas qui a tout fait, etc. Bon. On n'en est plus là, on n'est plus sur cette base religieuse, on en est sur le fait qu'il y a un génocide qui est en cours. Tous les gens qui meurent, les enfants qui meurent, quand vous coupez les jambes à un bébé de 2 mois, vous ne tuez pas un combattant du Hamas, vous ne tuez pas un islamiste, vous tuez un bébé, c'est tout. Point à la ligne. Il ne faut pas aller beaucoup plus loin que ça pour être raisonnable. Donc je me félicite de cette évolution-là qui est intéressante. Et puis dernier sujet que je voulais aborder, qui est un sujet amusant et un peu cocasse, l'Africom, vous savez ce que c'est ? Bon, la planète est divisée en un certain nombre de commandements de l'armée des États-Unis, un par zone géographique. Et Africom, donc, c'est le commandement de l'armée des États-Unis pour la zone africaine. Pas pour l'anecdote. Je rappelle que ce commandement a cherché à s'installer dans un pays africain que tous les pays africains ont refusé. Donc le commandement du commandement pour l'armée des États-Unis en Afrique est à Ramstein, en Allemagne. Bon, c'est comme ça. Bon. Et donc ce commandement Africom a organisé, donc c'était dans les premiers jours de quelques semaines en Afrique, des manœuvres importantes. Alors, qui devait se dérouler sur trois zones. Une zone qui était... pas les zones, bon, enfin, à différents endroits. Mais ce qui est important, c'est que j'ai pointé à cette occasion-là qui avait participé aux manœuvres américaines sur le territoire africain et qui n'y avait pas participé. Alors, d'une part, il faut savoir que participer avec l'armée américaine, l'armée israélienne, dont on ne considère pas que c'est un pays africain, mais vous savez qu'il y a une pression permanente d'Israël pour participer. Ils ont même demandé à adhérer à l'Union africaine, l'Union africaine a refusé. Mais en fait, là, dans la manœuvre, ils y sont, et ils y sont avec leurs amis du Maroc, puisqu'on sait que le Maroc est le pays d'Afrique le plus aligné sur la politique de Jérusalem et des États-Unis. Bon. Et donc, cette première donnée explique qu'il y a un certain nombre de gens qui ne veulent pas participer aux manœuvres américaines parce qu'ils disent « nous, on ne veut pas participer avec l'armée israélienne sur le territoire africain, ils n'ont rien à faire chez nous, donc on ne veut pas ». Et puis, il y en a d'autres qui, pour d'autres raisons, ne marchent pas. Et donc, ça a amené à une division assez intéressante puisque j'ai fait la liste des pays qui ne participaient pas à ces manœuvres donc américano-sionistes marocaines. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Alors, d'abord, les trois premiers qui n'ont pas voulu participer, c'est les trois fameux pays de l'Alliance du Sahel, donc Niger, Burkina Faso et Mali. Ça, on a compris qu'ils avaient décidément coupé les liens avec l'impérialisme américain. N'ont pas participé non plus ni l'Afrique du Sud, ni l'Angola, ni le Mozambique, ni le Zambie, ni le Zimbabwe. N'ont pas participé l'Éthiopie, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et l'Algérie qui a dit « moi je voulais participer, mais maintenant comme il y a l'armée israélienne, il n'en est pas question. Et puis en plus les relations avec le Maroc sont assez mauvaises et donc il n'en est pas question. » Donc on a donc déjà 17 pays qui ont décidé de ne pas participer aux manœuvres américaines. Ce qui veut dire que, ça c'est un petit indicateur, c'est sur des manœuvres militaires et tout, ça veut dire qu'effectivement, l'ambition des États-Unis qui était de dire à travers Africom, c'est un continent qu'on tient, au moins militairement, est en train de s'évaporer progressivement. C'est assez intéressant à suivre. Et alors, qui aide les États-Unis dans cette opération ? Vous avez l'Équateur. Pourquoi l'Équateur ? Alors, l'Équateur, je rappelle que l'Équateur est face à une situation post-électorale catastrophique, puisqu'en fait, les élections présidentielles ont été volées par le président actuel, qui est le roi mondial de la banane et qui est un agent des États-Unis en Équateur, M. Noboa, bon, peu importe. Les Pays-Bas participent aussi à ces manœuvres. Bon, c'est un peu triste, mais les Pays-Bas, je rappelle, sont quand même les Européens les plus fidèles aux États-Unis. Et je rappelle que le secrétaire général de l'ONU est un ancien Premier ministre néerlandais, M. Rutte. Donc, ils sont là. Il y a la Hongrie qui est venue là au milieu. Je ne sais pas pourquoi la Hongrie vient se mêler à des manœuvres américaines sur le continent africain. Et puis, il y a aussi le Kenya. Alors, le Kenya, c'est... Je me suis arrêté au cas du Kenya, mais je regarde un peu l'heure. Je me suis arrêté au cas du Kenya parce que dans le même temps où ces troupes participaient donc, du côté américain à ces manœuvres donc, sur le continent africain, le président Ruto, le président kenyan, qui passe pour un ami des États-Unis à telle enseigne que les États-Unis lui ont demandé de faire la police à Haïti moyennant finance, et donc il a envoyé ses gendarmes à Haïti, bon, qui ne touchent pas leur paye d'ailleurs à la fin du mois, mais ça fait partie des difficultés. Mais M. Ruto a été, dans le même temps où son armée participait aux manœuvres militaires américaines, a été reçu à Pékin en grande pompe par le président chinois et par Madame, puisqu'il y avait Madame Ruto aussi. Et le Kenya vient d'intégrer la fameuse route de la soie. Et donc, en fait, là, on a une évolution qui est de fond, qui est beaucoup plus sérieuse. Ça veut dire que le Kenya, après avoir été considéré, enfin le président Ruto, après avoir été considéré comme l'agent des États-Unis sur le continent africain, est en train de revenir à une réalité beaucoup plus concrète. Et je le rappelle, c'est très simple, c'est-à-dire que quand vous avez une alliance avec les États-Unis, on vous envoie des soldats, de l'armement, et puis vous êtes obligé d'acheter le matériel militaire américain. Quand vous avez une alliance avec Pékin, c'est des barrages, des hôpitaux, etc. C'est un autre type de rapport, et c'est ça qui se joue, et c'est ça que les États-Unis ne sont pas en capacité de voir, c'est-à-dire que, est-ce qu'ils ne savent pas, est-ce qu'ils n'ont pas les moyens, c'est peut-être possible, mais que quand la Chine arrive en disant, on va vous faire ci, ça, ça et ça, contractuellement, on va vous aider à vous développer, le fait d'avoir une armée équipée par les États-Unis ne pèse pas lourd si on est un dirigeant politique qui a le souci de l'avenir de sa population. Je conclurai là-dessus et je remercie beaucoup Thibault de sa participation. On se retrouve bien entendu la semaine prochaine à notre nouvel horaire, j'insiste, à 13h30 jusqu'à 15h. Merci encore Thibault.